Nos maîtres. Pendant sa jeunesse, on prend ses maîtres et ses conducteurs dans le présent et dans les cercles où le hasard nous place. Nous avons la conviction irraisonnée que le présent doit posséder des maîtres qui peuvent nous servir plus qu'à tout autre et qu'il nous faut les trouver sans les chercher. On pâtit durement plus tard pour cet enfantillage. Il faut expier ses maîtres sur soi-même. Alors, on parcourra peut-être le monde entier, présent et passé, à chercher les véritables indicateurs. Mais il sera peut-être trop tard. Et au pis aller, nous découvrons qu'ils ont vécu lorsque nous étions jeunes et qu'alors, nous nous sommes trompés. Le principe mauvais. Platon a merveilleusement montré comment le penseur philosophique, dans toute société établie, sera forcément considéré comme le type de toute scélératesse. Car en tant que critique des mœurs, il est l'opposé de tout homme moral. Et s'il n'arrive pas jusqu'à devenir le législateur des mœurs nouvelles, son souvenir demeure dans la mémoire des hommes sous le nom de principe mauvais. Nous pouvons deviner par là quelle partie la ville d'Athènes, assez libérale et novatrice, a fait de son vivant à la réputation de Platon. Quoi d'étonnant si celui-ci, qui, comme il le disait lui-même, avait l'instinct politique dans le ventre, a fait trois fois une tentative de réforme en Sicile, où semblait s'organiser justement alors un État grec méditerranéen. Dans cet état et par lui, Platon pensait faire pour les Grecs ce que Mahomet fit plus tard pour les Arabes. Fixer les grands et les petits usages, et surtout la vie quotidienne de chacun. La réalisation de ces idées était possible autant que le fut celle des idées de Mahomet. N'a-t-il pas été démontré que les idées bien plus incroyables encore, celles du christianisme, étaient réalisables? Quelques hasards en moins, quelques autres hasards en plus, et le monde aurait assisté à la platonisation du midi européen, et en admettant que cet état de choses dura encore, il serait probable que nous adorerions aujourd'hui, en Platon, le principe bon. Mais le succès lui fit défaut. Et c'est ainsi qu'il garda la réputation d'un rêveur et d'un utopiste. Les épithètes plus dures ont disparu avec l'ancienne Athènes. L'œil purificateur. Il faudrait surtout parler de génie chez des hommes comme Platon, Spinoza, Goethe, où l'esprit ne paraît attaché qu'une façon relâchée au caractère et au tempérament, tel un être ailé qui s'en sépare facilement et qui peut alors s'élever très haut au-dessus d'eux. Par contre, ce sont ceux qui n'arrivèrent jamais à s'arracher à leur tempérament, qui se parèrent avec le plus d'insistance de leur génie, ceux qui surdonnaient à leur tempérament l'expression la plus spiritualisée, la plus vaste et la plus générale, une expression cosmique, même dans certaines circonstances, par exemple Schopenhauer. Ces génies ne surent pas voler au-delà d'eux-mêmes, mais ils crurent se trouver, se retrouver, quel que soit l'endroit où ils dirigeaient leur vol. C'est là leur grandeur, cela peut être de la grandeur. Les autres, à qui ce nom s'attribue plus exactement, possèdent l'œil pur, purifiant, qui ne semble pas sortir de leur tempérament et de leur caractère, mais qui, libre de ceci, et le plus souvent dans une douce contradiction avec eux, regarde le monde comme s'il était un dieu et qui aime ce dieu. À eux aussi, cet œil n'a pas été donné en une seule fois. Il y a une préparation et un apprentissage dans l'art de voir, et celui qui a une chance véritable trouve aussi à temps un maître qui lui enseigne la vision pure. Ne pas exiger. Vous ne le connaissez pas. Il est vrai qu'il se soumet facilement et librement aux hommes et aux choses, et qu'il a des bontés pour tous deux. Tout ce qu'il demande, c'est que l'on laisse tranquille, mais seulement tant que les hommes et les choses n'exigent pas de soumission. Toute exigence le rend fier, farouche et belliqueux. Le méchant. « Il n'y a de méchant que l'homme solitaire !» s'écria Diderot. Et de suite Rousseau se sentit visé et en fut blessé mortellement, ce qui prouve qu'il s'avoua que Diderot avait raison. Il est vrai que tout mauvais instinct est forcé de s'imposer dans la société et les relations sociales. Une telle contrainte est forcée de mettre tant de masques, de se coucher soi-même si souvent dans les lits de Procuste de la vertu, que l'on pourrait très bien parler d'un martyr de l'homme méchant. Dans la solitude, tout cela disparaît. Celui qui est méchant l'est le plus dans la solitude, et aussi le mieux. Par conséquent, pour celui de l'œil ne voit partout que spectacle, c'est là aussi qu'il l'est avec le plus de perfection. Un rebrousse-poil. Un penseur peut se contraindre pendant des années de penser à rebrousse-poil. Je veux dire de ne pas suivre les pensées qui s'offrent à lui, venant de son intérieur, mais celles à quoi semble l'obliger un emploi, une division prescrite du temps, une façon arbitraire de s'appliquer. Mais il finit par tomber malade, car cette apparente contrainte morale détruit sa force nerveuse aussi radicalement que pourrait le faire une débauche dont il se serait fait une règle.